On va continuer dans l'étude du prophète Osée. On va regarder le chapitre 10 aujourd'hui, et peut-être un peu plus. Souvent, on me demande, mais pourquoi est-ce qu'on étudie l'Ancien Testament ? C'est tellement lointain, c'est tellement vieux. C'est des textes antiques, et c'est vrai qu'au nombre d'années, ça fait déjà un bail que ces textes ont été inspirés par l'Esprit-Saint. Mais Dieu les a enregistrés dans sa parole par l'Esprit-Saint, qui les a communiqués à des hommes qui ont écrit sous son inspiration. Ce qui est formidable, c'est que ces choses écrites sont là dans la parole de Dieu pour nous instruire. Chaque année, je crois que l'éducation nationale, ou peut-être pas toutes les années, mais ils revoient un peu leur programme, on essaye de les mettre à jour. Mais la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et ce qui a été écrit sert encore aujourd'hui d'exemple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans 1 Corinthiens 10, 6, parlant des aventures de Moïse qui a traversé la mer, qui a suivi un rocher spirituel. Le rocher, c'était Christ. Il nous dit, verset 6 du chapitre 10 de 1 Corinthiens, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Il donne des exemples. Et puis au verset 11, il répète, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Ces choses-là, ces récits que nous lisons, que nous étudions, il y a des leçons pour nous aujourd'hui. Il nous recommande de ne pas devenir idolâtre. Et on a vu que c'était le grand problème du peuple juif. À l'époque, on a rappelé qu'il y avait deux royaumes, le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord, Éphraïm. Éphraïm, c'est intéressant, ça veut dire doublement fertile. Le royaume du Nord était appelé à être doublement fertile au niveau de l'agriculture, des productions agricoles, et aussi au niveau de la famille, avec de nombreux enfants, un peuple qui grandissait en nombre et en stature. Mais on sait que Israël, c'est prostituée, c'est-à-dire qu'elle s'est livrée à l'idolâtrie. Dieu considère que quand on ne le met pas dans la première position qui lui revient, on est des idolâtres. Il y a quelque chose qui a pris cette première place qui doit lui revenir. Et je dirais à la base, peu importe en quoi consiste l'idolâtrie, le problème, ce n'est pas l'idole elle-même, c'est le fait qu'elle a déplacé la place, Dieu de sa place, qui doit être la première dans nos cœurs, dans nos vies. C'est bien que l'idolâtrie, ça peut être quelque chose d'évidemment mauvais, ça peut être la recherche de l'argent à tout prix, la recherche du plaisir sexuel à tout prix, mais ça peut être aussi des choses qui apparemment sont pas des péchés grossiers. Ça peut être l'amour de vos enfants, de votre famille, si cet amour vous force ou vous conduit à ne pas faire la volonté de Jésus, de Dieu, si vous êtes appelé à être missionnaire et à partir loin des vôtres, mais que vous ne pouvez pas vous résoudre à l'idée d'abandonner votre maman, votre famille. Cet amour pour votre famille devient une idole. C'est vrai que c'est plus difficile à admettre. On sait que ça donnait à l'alcool, au tabac, ça c'est des... Bah. Mais il y a des bonnes choses. L'éducation, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes pris dans un système où vous voulez toujours avoir plus de diplômes, quelque part, c'est parce que vous manquez de confiance en vous et vous voulez, en accumulant des formations, des diplômes, vous dire que vous avez des talents, vous êtes reconnu. Être reconnu par les autres, ça peut être un esclavage. Chercher à plaire aux autres. Vous soucier de votre réputation peut être une idole. Donc, on voit que la Bible ratisse large. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement la petite statuette devant laquelle on met des aliments. Ça peut être la télé. Si la télé vous accapare, vous prend tout votre temps libre que vous pourriez consacrer à l'étude de la Bible, à lire la Bible, à venir à des réunions. Le foot peut être encore aussi une idolâtrie. Pour les amateurs de l'OGC Nice, on sait qu'on est déçus. Ils ne vont sans doute pas se retrouver dans les trois premiers du classement général. Il n'y a plus tellement de chance. Si ça vous déprime, faites attention. C'est peut-être devenu une idolâtrie. Et il y a des fois comme ça, je me rappelle, j'avais un beau-frère, il me disait « Ouais, je cherche quelque chose qui va me donner de la joie cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans cette semaine qui vient, qui va m'exciter, qui va me dire « Ah, vivement qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, que je vois ses amis, que je fasse ce concert. » Et cette idée de chercher de la joie en dehors de Christ, c'est de l'idolâtrie. Alors, encore une fois, Jacques nous dit que tout don excellent vient du Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Toutes les bonnes choses de la vie, Dieu nous les donne. Que ce soit justement la famille, la nourriture, l'éducation, le fait de pouvoir se déplacer, notre corps qui peut fonctionner, qui peut... Toutes ces choses sont de bonnes choses. Mais, encore une fois, c'est une question de priorité dans ma vie. On sait que le peuple d'Israël s'était vraiment attaché au mal. On a vu ça dans les chapitres qui ont précédé ce chapitre 10. Et Dieu allait justement frapper ce pays dans ce qu'il avait d'essentiel, la fertilité agricole et la fertilité familiale, les enfants. Il annonce au chapitre 9 et là maintenant 10 que les récoltes ne vont pas être bonnes, qu'il vaudrait mieux qu'il n'ait pas d'enfants parce que la génération qui arrive va partir en exil, prise, capturée par un des peuples les plus cruels qui ait jamais existé, les Assyriens. On va lire ensemble le chapitre 10, on va commencer du moins. Je vous invite à vous y tourner. Osée 10. Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère et plus il a embelli ses statues. Leur cœur est partagé. Ils vont maintenant en supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs autels, détruira leurs statues. Israël était une vigne fertile. Israël est souvent comparé à une vigne, par ailleurs des fois à un olivier. Mais là, c'était une vigne qui s'étendait, qui grandissait et qui produisait beaucoup de fruits. Le problème, c'est que plus il y avait de raisins et plus le peuple d'Israël était reconnaissant envers, non pas Dieu, mais envers les idoles qu'il associait aux récoltes. Il y avait le dieu Baal, qui était le dieu auquel il fallait offrir des sacrifices pour avoir des bonnes récoltes. Autrement dit, c'était, si on voulait de l'argent, il pensait qu'il fallait honorer, adorer le dieu Baal. Et souvent, ces adorations s'accompagnaient de rites sexuels, parce qu'on associait la sexualité et la fertilité, ce qui n'est pas sans raison. Mais plus Dieu leur donnait de choses, et plus ils s'éloignaient de lui. Alors Dieu ne leur donnait pas des choses pour qu'ils se répandent en reconnaissance, mais ça serait la chose normale à faire. Dieu n'a pas besoin de notre reconnaissance et de notre adoration. Mais il la désire plus que toute autre chose. Parce que ça veut dire que on vit pour ce pourquoi on a été créé. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour le connaître. Tout le reste, c'est de l'enrobage. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié ce qui ne plaisait pas à Dieu, les autels. Plus son pays était prospère et plus il a fait des jolies idoles. Il les a sans doute trempées dans l'argent pour qu'elles soient encore plus belles. Mais c'est vraiment briser le cœur de Dieu que de faire ça. Je ne sais pas, peut-être dans votre expérience professionnelle, vous avez fait quelque chose et c'est quelqu'un d'autre qui en a reçu le mérite. Votre patron n'a pas bien réalisé que c'était vous, c'était en fait votre idée qui avait été récompensée, qui avait été prospère et bonne pour l'entreprise. Et il va remercier cet imbécile à côté qui ne fait jamais rien, qui arrive en retard. Et ce sentiment d'injustice, il est terrible. Et de la même façon, Dieu, lorsqu'il voit qu'il nous bénit, il nous donne tant de choses. Et on dit, merci la chance. Ça, attends, il est patient. Est-ce que nous aussi, on n'est pas comme ces Israélites? Plus Dieu nous donne, et plus on l'ignore. On n'a pas à se soucier de passer du temps dans la prière ou dans la lecture de la parole, dans les réunions avec des frères et sœurs, puisque on peut se fier à son compte en banque. Est-ce que votre compte en banque, c'est comme un mammon? Quand ça tombe bas, oulala, il faut prier mammon. Mammon, pas maman, mammon. Mammon, donne-moi des sous. C'est intéressant parce que, comme Jacques nous le disait, ou va nous le dire, puisque à l'époque ce n'était pas encore écrit, Jacques 1,8, il parle des hommes qui ne font pas confiance à Dieu, et il dit que ce sont des hommes irrésolus ou partagés, vont être instables dans toute leur conduite. Si on fait confiance à la chance, on va pas être très stable. Jacques 1,8, on peut recommencer au verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Un bon conseil. Demandez la sagesse à Dieu, il va vous la donner sans vous dire « Ah, vraiment, tu es un imbécile, hein, tu as bien besoin de ma sagesse. » Non, il ne va pas vous faire de reproches, et il va vous donner cette sagesse. Peut-être que vous avez des décisions d'études, des décisions de carrière, des décisions de résidence, des décisions sentimentales à prendre. Demandez la sagesse de Dieu. Mais il faut la demander avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Et c'est le même mot, ou la même idée, que Osée, parlant de la part de Dieu, dit sur Israël, il dit verset 2, « Leur cœur est partagé. » Leur cœur est partagé. C'est une grave maladie de cœur que d'avoir un cœur partagé. J'imagine que ça peut se produire médicalement ou le ventricule, la partie droite du cœur ne fonctionne pas correctement en synchronisation correcte avec la partie gauche. Il doit y avoir des termes médicaux. Mais un cœur partagé, ça ne va pas loin. Un cœur partagé, c'est une maladie. Un cœur brisé, par contre, c'est une bénédiction. Parce que ça nous conduit à aller à Christ, aller à Dieu. Et on est toujours béni lorsqu'on retourne, lorsqu'on va à Dieu. Mais le cœur divisé, c'est comme d'essayer d'adorer Dieu et Mammon. On a réalisé que Dieu était important quand même, mais on est tenté par toutes les autres choses et on s'adonne à toutes les autres choses qui ne plaisent pas à Dieu. Le cœur est partagé. Jésus, dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, 24, disait « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. » Ils étaient égoïstes, ils ne vivaient que pour leur propre plaisir, et en même temps ils savaient, parce qu'ils avaient entendu parler de Dieu, qu'il y avait un problème là. Et on dit souvent qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être un chrétien qui ne marche pas avec le Seigneur. Parce que le païen qui ne connaît pas Dieu, il peut vivre dans son plaisir sans avoir le cœur partagé. Il s'y adonne, il en subira les conséquences physiques, maladies, vie courte peut-être, mais quand il y va, il y va. Celui qui connaît le Seigneur et qui essaye de vivre dans le péché, il y a ce tiraillement, il n'est bien ni dans le monde, ni à l'Église. Quand il est avec des gens, entre guillemets, qui essayent de marcher avec Dieu, des disciples de Christ, il les trouve un peu trop extrêmes, il les trouve un peu trop carrés, pas très drôles. Et quand il est dans le monde, en même temps, il sait que tous ces gens vont périr en enfer et il est mal dans sa peau. Lorsqu'on a le cœur divisé, le cœur partagé, on est mal dans son cœur. Est-ce que vous êtes mal dans votre cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiraillent? D'un côté, vous aspirez à vous consacrer à Dieu, à vivre seulement pour lui, mais en même temps, il y a des choses que vous savez seraient trop dures à complètement laisser tomber. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu nous voit dans cet état, il intervient. Il nous dit, verset 2, leur cœur est partagé, ils vont maintenant en supporter les conséquences. L'Éternel démolira leurs autels, il détruira leurs statues. Dieu va retirer, va prendre ce qui nous fait du mal. Vous pensez qu'être riche, c'est le plus beau programme de vie? Dieu va vous donner la faillite. Vous pensez que être célèbre, c'est le bonheur ultime? En l'espace de quelques semaines, votre nom va disparaître des journaux, des téléréalités. Il peut comme ça nous corriger. démolir les autels, détruire leurs statues. Dieu prend ce qui nous fait du tort. Et lorsque ça arrive, ça nous fait mal. Mais en même temps, sachez que Dieu vous veut du bien. Et ça, ça fait du bien. On peut relâcher les choses qui nous ont rendus esclaves, même si c'est douloureux. Verset 3. Bientôt ils diront, nous n'avons pas de roi car nous n'avons pas craint l'Éternel. Le roi, que pourrait-il faire pour nous ? Ils parlent et ils parlent, verset 4, ils font de faux serments, ils concluent des alliances. Aussi le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie, la capitale du royaume du Nord, seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera le deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Après le péché d'Israël, le cœur partagé, là il nous parle du chagrin que va ressentir Israël. Vous savez Dieu voulait être le roi, il voulait qu'il y ait pas une démocratie, mais une théocratie. Aujourd'hui, la démocratie dans le monde occidental est devenue une idole. Sans aller jusqu'à parler du buste de Marianne qu'on vénère dans les mairies, devant lequel on se marie. Qu'est-ce qu'elle en a à faire, Marianne ? C'est qu'un bout de plâtre. Et les valeurs républicaines dont on se gargarise à longueur d'interviews et de déclarations officielles. Le meilleur des valeurs républicaines, ce sont les valeurs judéo-chrétiennes qui sont derrière. Ce n'est pas la République qui les a inventées. On se moque des chrétiens parce qu'ils parlent d'un Dieu invisible, mais on trouve tout à fait normal de parler d'une entité complètement invisible, la République. Ça veut dire la chose publique, simplement. Mais on en a fait un rex, un roi. Rex publica. Ils diront, ils voulaient, eux, être comme tout le monde. Vous aussi, peut-être, vous dites, c'est pas drôle d'être chrétien. J'ai tous mes amis à l'école. Ils sortent en boîte de nuit le soir. Leurs parents ne contrôlent pas ce qu'ils regardent sur Internet. C'est pas drôle d'être chrétien. Et on veut faire comme les autres. Le peuple d'Israël, qui avait la bénédiction d'être dirigé par Dieu, à travers les juges, à travers les oracles des prophètes, eux, ils voulaient un roi comme tout le monde. Parce qu'il y avait des petits rois, des roitelets, des petites régions géographiques, il y avait un petit roi qui prenait le pouvoir et qui l'assurait de façon dictatoriale. Et ça, ils disaient, oh, ça c'est bien ça. Ah, oh, ça serait bien d'avoir un roi. Donc Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Mais ils veulent un roi, on va leur donner un roi. Il leur a donné le roi Saül, qui a été la source de bien des problèmes. Et là, maintenant, ils ont des rois. Au nord, surtout, il n'y en a pas un qui est là pour racheter l'autre. Ils sont tous mauvais. Mais ils diront, nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, de toute façon, il ne peut rien faire pour nous. Le roi va être emmené en exil ou exécuté. Il y a des choses qu'on lit dans les livres historiques sur ces tragiques circonstances. Dieu veut être votre roi, il veut être mon roi. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il est comme la reine Élisabeth, une jolie figure qu'on aime bien revendiquer pour montrer qu'on est historiquement là depuis longtemps. Il y a quelqu'un de riche, qu'on vit un peu comme au Moyen-Âge. C'est chouette d'avoir un roi. Nous, avec la République, nous, on revient à 1789 seulement. Mais eux, ils remontent. Waouh ! Ils ont un roi, une reine. Il faut obéir à Dieu. Dieu n'est pas Dieu, n'est pas roi si nous ne lui obéissons pas. Et Verset 4, ils font ce qu'on fait, ils parlent et ils parlent. À la tchatche, ça y va. Et c'est dans l'air, et les autres soirées, les émissions, les talk shows, et ah, on peut, pour parler, on parle. On fait de faux serments. On conclut des alliances. Si tu fais ça, ben moi je t'aiderai, je dirais que tu n'avais pas vu cette loi, ou peu importe. On s'accommode, on fait des alliances. Et il dit ça, le jugement va venir. Le jugement va venir tel une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Et le jugement, il pousse. Ça donne un peu l'impression que, quand on le remarque, il vaut mieux demander pardon et un peu arracher la mauvaise herbe qui commence dans le sillon, plutôt que de la laisser prendre tout le terrain, comme un peu les pissenlits. Le premier pissenlit que vous voyez dans votre pelouse, vous pouvez l'enlever, ça ira. Enlevez bien la racine. Mais si vous laissez un peu trop longtemps, ça devient impossible. Ça devient une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Et puis, une des choses qui va les attrister, c'est les veaux de Beth Aven. Alors, ce n'est pas une recette de cuisine, ça. On pourrait peut-être imaginer une recette. Je vous laisse, si vous êtes cuisinier ou cuisinière. C'était les veaux d'or qu'ils adoraient. C'était les idoles qu'ils avaient placées à Bethel et à Dan. Encore une fois, je vous ai dit, quand on va en Israël, on peut aller voir l'emplacement où se trouvaient ces hôtels et se dire c'est là qu'ils se livraient à leur fête en l'honneur des idoles. Ils sont tristes pour leurs idoles. Peut-être que vous avez bien aimé Platini dans le passé, un grand champion de foot français. Maintenant, il a pris un peu de poids, des années. Il est en difficulté, il a été rejeté, il en appelle maintenant. Peut-être que vous êtes triste pour lui parce qu'il a préparé l'Euro 2016, puis il ne va même pas pouvoir assister, ou peut-être pas. Il y a un jeu de mots lorsque, au lieu de dire de Beth-El, Beth, vous savez, c'est la maison en hébreu, Bethléhem, Bethléhem, c'est la maison du pain. Beth-El, c'est la maison de Dieu, c'est Bethel. Il y a un mouvement d'église aux États-Unis qui s'appelle Bethel maintenant. Aven, ça veut dire rien. C'est pas que ça ne veut rien dire, mais ça veut dire rien, vide. Donc c'était la maison du vide, la maison où il y avait la méchanceté, l'opposé de la maison de Dieu. Et ce qui chagrine ses habitants, que Dieu essaye de reprendre en leur reprenant justement leurs idoles, c'est le sort de ces idoles. Il mène le deuil sur l'idole, et normalement un Dieu devrait nous soutenir. Mais là, ils sont du souci, comment ils vont pouvoir soutenir leur Dieu, leur petit Dieu. Ils tremblent pour l'idole, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Et ça, c'est terrible lorsque Dieu est à l'œuvre dans nos vies et qu'on regrette les choses qu'il est en train de nettoyer. Au lieu de coopérer rapidement. Plus on coopère rapidement, moins la souffrance sera longue et pénible. Plus ça ira vite, moins ça sera long. C'est logique. Mais ça encore, faut-il le faire quand Dieu exprime son chagrin, son cœur brisé, parce que nous avons un cœur partagé, en enlevant les objets de notre adoration. Il va parler aussi de la honte d'Israël. Cette idole, elle va être transportée, verset 6, en Assyrie pour servir de cadeau au roi Jareb. On pense que c'était un roi assyrien. La honte d'Éphraïm et Israël. La honte s'emparera d'Éphraïm, Israël rougira de ses projets. C'en est fait de Samarie, de son roi, il est comme de l'écume à la surface de l'eau. Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. La ronce et le chardon pourceront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous et aux collines, tombez sur nous. Lorsqu'on continue dans le péché, lorsqu'on ne se repent pas, Dieu doit intervenir et souvent une des facettes de son intervention, c'est que nous avons la honte de notre vie. Régulièrement, malheureusement, on voit dans les nouvelles des pasteurs, des fois de méga-church, qui sont exposés dans leur péché et alors qui avaient des idoles, ça pouvait être des relations amoureuses avec des femmes qui n'étaient pas leurs épouses, ça peut être des malversations financières, ça peut être des façons indignes de traiter les collaborateurs. Et quand ça éclate au grand jour, à la célébrité du pasteur succède la honte. Israël rougira de ses projets. Quand j'étais jeune, enfant plutôt, je rougissais pour la moindre chose. Quand on me présentait à quelqu'un, je n'osais jamais regarder la personne en face. Je baissais les yeux. Si on me parlait trop directement, je piquais un phare. Je rougissais. Quelque part, je me dis, ça serait bien si je rougissais encore aujourd'hui. Mais plus on s'endurcit à tolérer le péché dans le compromis, quand on est rouge, c'est parce qu'on prend un coup de soleil. Ce n'est pas parce qu'on a un coup de soleil dans le cœur qui illumine notre péché. Israël va rougir de ses projets. Donc il y avait encore des idées de continuer dans le péché, de continuer à dorer les idoles. Donner un coup de peinture sur les idoles. Et puis là, verset 7, c'est la décision, c'en est fait de Samarie, de son roi. Une très belle expression, il est comme de l'écume à la surface de l'eau. Comme une bulle de savon. Mais c'est difficile d'avoir une bulle qui dure vraiment longtemps. On s'épuise à souffler. Et puis des fois, on en fait une belle. Mais rapidement, la teinte irisée disparaît, ça devient plus jaune, plus pâle et pouf! Ma joie, c'est d'arriver à en faire qui atterrissent sur Daphné, qui peut, elle, les éclater. Mais voilà, le roi de Samarie, tout ce régime, c'est comme de l'écume à la surface de l'eau. Une autre traduction, c'est comme une brindille à la surface de l'eau, qui est emportée par l'eau, la bulle de savon est emportée par l'air et elle éclate rapidement. Et puis à la gloire passée à la fausse idolâtrie, ou plutôt à l'idolâtrie vraie d'un faux dieu, succède l'oubli. Les péchés seront détruits, plutôt les hauts lieux où Israël a péché seront détruits. La ronce et le chardon pousseront sur leurs autels. Vous avez adoré votre voiture, la rouille la recouvrira. Vous avez passé des heures à la bichonner, peut-être à la restaurer. Encore quelques années, ce ne sera plus qu'un tas de rouille. Là, ce sont des ronces et des chardons qui poussent sur les autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous et aux collines, tombez sur nous. C'est une expression qui est reprise dans l'Apocalypse. lorsque les gens souffrent pour leur impiété, plutôt que de se repentir, ils préfèrent mourir, que les montagnes tombent les recouvrent, que les collines tombent sur eux. Ça, c'est Apocalypse 6, 15 et 17. C'est à la fin des temps, des souffrances terribles. Je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ?» C'est repris aussi dans les évangiles, cette idée que les hommes pris dans leur péché deviennent stupides et préfèrent mourir, préfèrent se cacher de la face de Dieu alors qu'il est en train d'exercer le jugement plutôt que de se repentir. C'est la force de la rébellion du cœur humain. Il continue. Verset 9, « Depuis l'époque de Gibéa, tu as péché, Israël. Ils en sont restés là et la guerre contre les méchants ne les atteindrait pas à Gibéa. » On a parlé de cette référence de juge, du livre des juges, chapitre 19, où un lévite et sa concubine avaient été accueillis par un homme à Gibéa. Et ils avaient été rapidement entourés par des hommes qui voulaient avoir des relations sexuelles avec le Lévite. Et le Lévite et son hôte avaient décidé de donner en pâture à la luxure, à l'appétit débridé de ces hommes, la concubine qui avait subi leur violence, leur viol répété toute la nuit, au point que le matin elle était tombée morte. Un épisode sordide, un des plus tristes et sombres épisodes de la Bible. Le matin, le Lévite avait coupé le corps de sa concubine en 12 morceaux, en envoyant un morceau à chacune des tribus d'Israël. Ça fait penser presque aux émissions policières avec les recherches d'ADN, des bouts de viande qui arrivent. Un épisode vraiment terrible. Et il dit qu'en fait, depuis cette époque-là, Israël est dans le péché. On aurait pu penser qu'ils étaient un peu sortis, mais leur cœur était toujours aussi bas et prêt à faire des actes aussi sordides et horribles. Ils en sont restés là et la guerre contre les méchants ne les atteindrait pas à Gibéa. Autrement dit, ils n'ont pas changé. Verset 10, « Je les corrigerai à mon gré, selon ma volonté, et des peuples se ligueront contre eux quand on les enchaînera pour leur double faute. » Leur double faute, c'était à l'époque de ce Lévite, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ils ont double faute, double peine. Les armées étrangères vont être des instruments. Dieu utilise souvent des choses extérieures à son peuple, à l'Église, pour punir ou pour redresser, pour corriger son peuple. Je les corrigerai à mon gré. Et souvent, on pense que correction, c'est la punition, mais en fait, le mot corriger, ça veut dire redresser, ça veut dire corriger, punir pour faire aller droit. Il y a toujours cette petite lueur d'espoir. On dit qu'il y a toujours un liseré d'argent ou d'or autour des nuages les plus sombres. C'est une belle image pour dire que même dans la colère la plus terrible de Dieu, Dieu étant Dieu, un Dieu d'amour, il y a toujours ce liseré d'espoir que nous pouvons revenir à lui, qu'il nous pardonne. Jusqu'à un moment. comme lorsque l'arche de Noé s'était refermée, il était trop tard. Si nous entendons sa voix aujourd'hui, n'endurcissons pas notre cœur. Si Dieu vous parle ce matin d'idoles qu'il faut vraiment laisser tomber, avec son aide, avec l'aide de vis-à-vis de frères qui peuvent, ou sœurs qui peuvent être avec vous dans votre combat contre des péchés habituels, c'est le moment. Verset 11, Éphraïm est une génisse, une vache dressée qui aime fouler le grain, mais je mettrai une barre sur son beau cou, j'attellerai Éphraïm, Judas labourera, Jacob hercera. Encore une fois, les prophètes utilisaient un langage imagé pour parler au peuple. Aujourd'hui, une génisse dressée qui aime fouler le grain, ça...
Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne vois pas ce que c'est que ça.
Une génisse qui aime fouler le grain, c'est quoi ? Lorsque les animaux travaillaient dans les champs, ils avaient la liberté de manger le grain sur lequel ils marchaient, ils pouvaient fouler et se nourrir. Mais là, il va mettre il va les atteler. Et elles n'auront plus cette liberté, Éphraïm n'aura plus cette liberté. Et là aussi, nous devons savoir utiliser la liberté que Dieu nous donne. Que ce soit même la liberté physique. Aujourd'hui, vous pouvez marcher, vous pouvez parler, vous pouvez sentir, vous pouvez voir. Peut-être qu'un jour, ces facultés vous seront reprises. Et là, vous direz, ah, si seulement j'avais encore mes jambes de 20 ans, je pourrais partir missionnaire ou je pourrais aller dans la rue, donner des traités aux gens qui ne connaissent pas Dieu encore. La liberté que Dieu nous donne, on doit l'utiliser pour sa gloire. Et souvent, c'est les gens qui ont le moins de liberté qui sont les plus efficaces pour Dieu parce qu'ils réalisent l'importance réelle des choses. Et là, il mentionne aussi le pays du sud, Juda. Jacob hercera, Jacob brisera avec une herse la terre. On a vu le péché d'Israël, le chagrin, la honte, ce jugement, ce péché, ce châtiment qui est annoncé. Et puis là, verset 12, un grand verset de la Bible. Un grand, grand verset de la Bible. Un appel. Semer pour la justice, moissonner pour la bonté. Encore des termes d'agriculture. Des fois, on se demande pourquoi Dieu est venu sur terre à cette époque-là, ou à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans. S'il avait attendu le 21e siècle, imaginez les belles images qu'il aurait pu utiliser, changer de logiciel, rejeter les virus. Mais les gens de l'époque n'auraient pas compris. Par contre, l'agriculture, même si on est loin maintenant de l'agriculture, ça reste des concepts un peu éternels. Semer pour la justice, moissonner pour la bonté. On a parlé de cette semence qui conduit à une récolte. On a dit que ça donnait toujours de la même chose que ce qu'on avait semé. Si on sème des carottes, on ne va pas recueillir des navets. Ça prend du temps, c'est pas instantané. On récolte plus que ce qu'on a semé, c'est le principe de l'agriculture. Et puis une autre chose qu'on a notée, c'est que lorsque la récolte arrive, ça va très vite. On avait vu que si on sème le vent, on va récolter la tempête. Et on va récolter plus que ce qu'on a semé, ça va prendre du temps. Mais quand ça va arriver, ça va être très vite. Et ça va être du vent très 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 fort, plus que ce qu'on a semé. Une expression clé, vous pouvez souligner, défrichez-vous un champ nouveau. Il y a des fois des personnes qui connaissent d'autres langues, des chrétiens qui connaissent d'autres langues. Et quand on a appris un verset dans une autre langue, on trouve des fois que ça parle beaucoup plus fort que dans la traduction en français de ces paroles qui ont été prononcées en hébreu. En anglais, c'est « break up your fallow ground », briser votre terrain endurci. Défricher, ça veut dire, une friche, c'était un terrain qu'on laissait sans intervention, sur lequel le laboureur, le cultivateur ne faisait aucun travail pendant plus d'un an. Printemps, été, automne, hiver, si on ne touchait pas du tout à la terre, ça devient une friche. Et peut-être que vous avez un petit jardin et vous savez que si vous laissez pousser les choses, au bout d'un moment, c'est le terrain se remplit de mauvaises herbes, le terrain devient dur, sec, il est difficile à travailler, il est beaucoup plus facile de maintenir un terrain en bon état, en le labourant, en le binant, en le travaillant régulièrement, que d'attendre une fois tous les ans pour le travailler. Dans quelques temps, on va avoir un camp de travail aux enfants à la montagne. Et c'est plus facile si on monte régulièrement couper l'herbe, si on monte régulièrement entretenir les fleurs, les arbustes, que si on vient qu'une fois par an ou une fois tous les deux ans. Là, le terrain est complètement envahi, détruit. Défrichez-vous un champ nouveau. La traduction essaie de revenir à nous-mêmes. On peut penser, on va défricher un champ à côté, mais là il dit défrichez-vous, et l'idée c'est une réflexion sur soi-même. Et le champ qui a besoin d'être travaillé, qui a besoin d'être hercé, brisé, devinez qu'est-ce que c'est? C'est notre cœur. Notre cœur laissé à lui-même, il s'endurcit. Je vois, quand je vois des mendiants dans la rue, même des enfants, mon cœur peut s'endurcir. Alors c'est vrai qu'on peut trouver des bonnes raisons, dire ils sont exploités par leurs parents, c'est un système de vie, on ne veut pas encourager ça, on ne va pas donner. Ou alors on fait un peu Dieu, on dit celui-là il ne me plaît pas, je lui donne rien, mais il y a l'autre là-bas, oui, donc je lui donne une pièce de 2 euros. Et on n'a pas de... Ce que je constate, c'est que mon cœur peut s'endurcir. Parce qu'on les voit toujours, ils sont là tout le temps, ils sont toujours là à mendier. Il y en a qui ont l'air en bonne santé, qui pourraient proposer des services, balayer devant chez vous ou quelque chose. Mais notre cœur a besoin d'être... Les mottes de dureté de notre cœur ont besoin d'être brisées. Alors il y a le danger de devenir émotif et de dire « Oh, ça, j'ai vu un reportage, ça m'a fait pleurer. » Bon, c'est bien que quelque part il y a encore une résonance, qu'il y a une relation entre votre cerveau, vos glandes lacrymales et vos larmes et tout ça. Mais que ça ne soit pas une excuse pour ne rien faire. On peut prier pour les femmes exploitées dans les pays musulmans. Ou alors on peut faire comme Isman, prendre des actions pratiques, organisées, faire quelque chose. On peut, si on n'a pas les moyens, les connaissances, on peut aider ce que quelqu'un fait pour ces personnes. Mais défrichons notre cœur. Combien de temps il faut pour combien de temps? Quand plutôt? Maintenant, c'est le moment. C'est pas demain. Aujourd'hui, je vais rester tranquille. Et puis, dans le futur, non. C'est le moment de rechercher l'Éternel. C'est drôle que ça va avec le cœur. Lorsqu'on cherche Dieu, Si on le cherche vraiment, si on le cherche de tout notre cœur, comme dit Jérémie 29, 13, on le trouve. Et il ne nous laisse pas sans nous transformer. Combien de temps il faut le rechercher jusqu'à ce qu'il vienne? C'est simple. Vous cherchez, vous priez, vous jeûnez, vous demandez à Dieu qu'il vous bénisse avec sa présence dans votre cœur, qu'il vous fasse faire des choses selon ses projets. Il va venir, vous allez avoir cette paix, vous allez avoir cette joie, et il va déverser pour vous la justice. Ne croyez pas que Dieu soit un Dieu qui se satisfasse de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Son cœur est brisé. Son cœur pleure pour les hommes qui vivent dans le péché, parce qu'il aime tous les hommes. Et il nous voit prisonniers de l'orgueil, de l'égoïsme, de la luxure, de toutes ces choses. Et son cœur est brisé. Encore une fois, c'est la belle image du mariage d'oser avec une prostituée. On a dit l'infidélité, c'est une chose terrible à vivre dans un mariage, dans une relation. Pour Dieu, c'est pareil. Lorsqu'on s'éloigne de lui, lorsque les hommes le rejettent, remercie la chance ou remercie Marianne d'avoir leur avoir payé le RSA. Il ne voit pas que c'est lui qui les aime et qui les bénit en utilisant ses outils. Vous avez, verset 13, vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Qu'est-ce que nous plantons en ce moment dans notre vie ? Parce que ce que nous plantons va se montrer. Ça prendra du temps, mais ça sera de la même nature. Il y en aura plus, et quand ça va se voir, ça va exploser. Quand on cultive le mal, lorsqu'on sème du mal, on moissonne le péché. Manger le fruit du mensonge. Un de mes fruits préférés, ce sont les nectarines. Mais la saison des bonnes nectarines est très courte. Au mieux, juillet, août. Avant ça, c'est trop dur. En ce moment, même si vous les achetez venant de je ne sais pas où, elles sont amères comme de l'acide. Et puis des fois, on voit chez certains une belle nectarine. On va pour la prendre, on s'aperçoit que c'est un fruit en plastique. Ils arrivent même à mettre du duvet, on dirait vraiment que c'est un vrai fruit, mais c'est le fruit du mensonge. Et on n'est pas satisfait de manger une nectarine en plastique, je vous le garantis. Et la source du problème, en effet, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. L'essence du péché, c'est la confiance en soi, en ses propres ressources, en ses propres contacts, en ses propres relations. C'est le nombre des vaillants hommes, ça peut être le nombre, le montant de votre compte en banque, le temps que vous faites au marathon, tout ce qui déplace votre confiance en vous-même plutôt qu'en Dieu. Alors certains disent, les chrétiens, ils font toujours confiance à leur Dieu. Alléluia! Parce qu'il est le seul qui soit valable et digne de confiance. Vos forces, votre imagination, vos ressources intellectuelles, c'est Dieu qui vous les a données, il peut les reprendre en un clin d'œil. Vous pouvez avoir la plus belle intelligence qui soit, avoir les diplômes, et du jour au lendemain, pof, l'AVC. C'est pas drôle, mais ne pas réaliser qu'on doit tout à Dieu et que notre secours n'est qu'en Dieu, c'est se préparer des lendemains qui déchantent. Un tapage s'élèvera parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites comme Beth Arbel a été détruite par Chalman le jour du combat quand la mère a été écrasée avec les enfants. Voilà ce qui vous attirera à Bethel à cause de votre extrême méchanceté, à l'aurore s'en est fait du roi d'Israël. Voilà ce que vous attirera à Bethel, cette idolâtrie, votre extrême méchanceté. Ce n'est pas quelque chose de léger que d'avoir des idoles, c'est quelque chose de très grave vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de nous-mêmes, parce que ces idoles ne peuvent pas nous aider en quoi que ce soit. Il fait une allusion à Beth Arbel, un tapage s'élèvera parmi ton peuple. Il parle de l'invasion des Assyriens qui va arriver en 726, dans quelques années. Toutes les forteresses vont être détruites. Ce en quoi ils plaçaient leur confiance vont être détruites. Et il parle de Beth Arbel, la maison d'Arbel, qui a été détruite, qui va être détruite par Shalmaneser, un roi assyrien, c'est un épisode dont il est question dans le roi 15-29 et d'autres passages. Beth Arbel, c'est un peu le baou de Saint-Janet de la mer de Galilée. Quand on est sur le lac de Galilée, le lac de Tibériade, on peut voir cette colline qui domine la vue, et c'est la même genre de hauteur. On peut y aller quand on va en Israël. C'est un endroit qu'on peut visiter. On peut faire la démarche, ou on peut y aller en voiture. C'est toujours un peu décevant d'avoir fait la marche en plein soleil et de réaliser qu'en fait on aurait pu y aller en voiture de l'autre côté, mais c'était un endroit très haut. Et là, ce tyran, ce roi sanguinaire avait fait jeter les enfants des capturés, et après avait même poussé les mères sur leurs enfants. Des choses terribles. Malheureusement, on voit que le cœur humain ne change pas. À la base, il est capable de ces atrocités aujourd'hui encore. À l'aurore, c'en est fait du roi d'Israël. C'est pour montrer comme du jour au lendemain, on dirait aujourd'hui, ce qui est une idole, le roi que vous vouliez pour être comme tout le monde, c'est fini. Et puis, on va lire comme à notre habitude maintenant, parce que les divisions ne sont pas nécessairement inspirées du texte de la Bible. Le verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Même lorsqu'il nous parle de la correction à venir, Dieu veut toujours nous donner de l'espoir. Et là, c'est un petit clin d'œil. « J'ai aimé Israël jeune, je l'ai appelé à sortir d'Égypte. » On verra la semaine prochaine, Dieu voulant. C'est aussi une prophétie messianique. Mais encore une fois, Dieu nous aime et il souffre de nous voir pris dans le péché. Il veut nous sortir de là. Et s'il doit utiliser la médecine forte, il va utiliser la médecine forte de l'esclavage, de la souffrance, pour qu'on revienne à nous-mêmes et qu'on réalise qu'on a fait les imbéciles. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu veux qu'on t'obéisse, non pas pour ne pas briser les commandements, mais tu ne veux pas qu'on brise ton cœur. Parce que tu es plein d'amour pour chacun de nous, Seigneur. Et notre péché, il te fait du mal, parce que tu sais qu'il nous fait du mal. Seigneur, aide-nous à défricher notre cœur. Défricher un champ nouveau pour que la semence de ta parole qui tombe dans ce champ, dans ce cœur, puisse porter du fruit. Jusqu'à 100 fois le fruit qui est versé, Seigneur. C'est ton désir, c'est ton cœur pour nous. Pardonne-nous parce que nous nous laissons tromper par des idoles. Nous devenons stupides en nous laissant aller au péché, Seigneur. Nous, on, laissant des compromis s'installer dans notre vie. Seigneur, merci de parler à chacun, à chacune aujourd'hui. Et aide-nous, Seigneur, avec ton Esprit Saint, avec l'aide de ta parole, avec l'aide de l'Église, avec l'aide des frères et sœurs, avec des vis-à-vis, à défricher un champ nouveau. Amen.